Lundi 24 avril, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web, et 18h, c'est toujours l'heure de la relève. Bonsoir, c'est l'heure de votre quinzomadaire radiophonique préféré. C'est parti pour une demi-heure avec non pas un, mais deux nouveaux talents ce soir. Pour commencer ce soir, justement, on parlera de montagnes et de lacs, de secrets et de dilemmes moraux. Mon premier invité est écrivain. Et c'est parti pour la relève. En deuxième partie, on retrouvera Guillaume Collet en direct de Saint-Étienne qui nous parlera du festival Nouveau Rêve. Mais tout de suite, bonjour Lucas Brunoni.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de En Surface, votre deuxième roman publié en France, parce qu'en fait c'est un peu votre troisième roman, mais le deuxième on en parlera après. Vous êtes de passage à Paris à l'occasion du Salon du Livre qui désormais, attention les yeux, s'appelle le Festival du Livre de Paris. Et ça s'est terminé hier. Donc En Surface, je le disais, votre deuxième roman. Est-ce que pour vous qui venez de Suisse, c'est comme en France, le deuxième roman c'est un moment particulier, parce qu'en France il y a toute une mythologie, il y a le premier roman, puis le deuxième roman c'est le moment difficile, c'est un peu la course là.
On dit que c'est le moment difficile, oui. Bah alors, moi j'espère que mon deuxième roman est meilleur que celui d'avant. En général, on essaye toujours de s'améliorer. Et puis après, par contre, bah voilà, ça sera les lecteurs et les lectrices qui vont le dire. Et j'espère qu'il arrivera à bien dépasser cet obstacle du deuxième roman.
Et ça, c'est plutôt à vous de le dépasser pour arriver au troisième.
Il faut peut-être faire directement le troisième, c'est
oui,
ça
peut-être,
c'est mentir peut-être. En disant qu'il y a le deuxième qui est sorti entre-temps. Et puis...
Ah, mais alors vous avez de la chance, parce que votre deuxième, c'est le troisième, parce qu'il y en a un premier qui a été écrit en italien.
C'est compliqué. Hein.
Non, ça va, on devrait y arriver.
Oui, alors j'ai commencé à écrire en italien, et puis mon premier roman en français, en réalité, c'est une traduction d'un livre qui est sorti en Italie, qui a été publié par Finitude. Et donc, pour faire suite à cette parution en français, vu que j'avais vraiment bien apprécié l'aventure et aussi les rapports avec l'éditeur, j'ai décidé d'écrire celui d'après en français directement.
Alors justement, c'est là où c'est formidable, c'est qu'en fait, votre troisième roman est votre premier roman en français.
Exactement.
Si voilà.
Donc, en réalité, c'est un premier roman, on pourrait dire.
Tout va bien.
Donc, voilà.
Et donc, le premier avait été traduit, vous venez de le dire, par Joséphin Cardona, qu'on avait reçu ici pour son roman La soustraction des possibles. On vous mettra le lien sur le site internet. En surface, c'est votre premier roman que vous avez donc, comme vous venez de dire, écrit directement en français. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire en français ? Vous n'étiez pas content de la traduction ? Vous n'étiez pas prêt à ça ? Ou à l'inverse, pourquoi vous aviez écrit le premier en italien ? Vous ne vous sentiez pas encore prêt ?
Mais au contraire, j'étais très content de la traduction et j'ai aussi apprécié pouvoir travailler un tout petit peu avec Joseph, donc relire ce qu'il avait fait. On a pas mal discuté, j'ai appris énormément de choses et c'est vrai que ça m'a aussi encouragé à faire cette tentative. Et puis c'était aussi un peu un défi. Alors c'est vrai que pour moi, l'italien est ma langue maternelle, donc c'est une langue où j'ai une maîtrise qui est quand même... Plus haute, meilleure que celle du français. Mais je me suis dit que c'était une aventure intéressante. Et surtout, ce livre, En Surface, est un livre qui se passait dans ma tête dans un environnement francophone. Donc, ces personnages, ils parlaient déjà français entre eux.
C'est ça, il y a des livres pour lesquels la langue s'impose, puisque vous écrivez assez facilement dans une comme dans l'autre langue ?
Je pense que oui, surtout dans mes livres, il y a beaucoup de dialogues. Il y a beaucoup de scènes, c'est vraiment des scènes avec des personnes qui parlent. Et donc les dialogues, c'est facile de les imaginer dans une langue ou dans une autre, et puis après ils s'écrivent un peu tout seuls.
Alors, je vous ai posé toutes ces questions, non pas pour vous embêter, mais parce que le personnage principal d'En Surface, Leïla, elle est elle aussi traductrice, alors elle traduit des choses techniques. Et quand on lit les considérations qui, dans ce roman sur ce métier, on se dit que vous parlez un peu de vous en train d'écrire en français. Je me trompe ou pas ?
Oui, c'était un peu un petit jeu dans le livre, mais c'est vrai aussi que dans le livre, il y a un lac, il y a un peu une atmosphère, un peu de petits villages, de vallées. Et en général, c'est qui va se réfugier près des lacs ? C'est des écrivains. Donc vous avez énormément de livres avec des écrivains qui sont près d'un lac pour écrire leur nouveau livre. Donc il y a d'écrivains, alors pourquoi pas une traductrice pour une fois ?
Oui, et puis il y a souvent, ils sont soit dans les lacs, soit dans les montagnes. Et les Alpes ont beaucoup inspiré les écrivains. Je n'ai pas une passion pour raconter, moi, les romans. Alors, on va juste dire que le vôtre raconte l'histoire d'une femme, Leila, qui retourne dans un endroit qui a été essentiel dans sa jeunesse. Elle a besoin de réfléchir à une question très grave. Si son fils est coupable d'un meurtre, comme elle le soupçonne, doit-elle ou non le dénoncer ? Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui, c'est bien. Ça met en avant le dilemme un peu central du livre. Et après, autour de ce dilemme central, il y a aussi un peu tout le voyage de Leila qui doit remettre en question certaines choses de son passé et faire face à son passé pour pouvoir avancer dans son présent.
Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter au départ, le portrait ? Parce qu'en fait, il y a un peu trois livres dans votre livre. Vous êtes doué, hein, parce qu'il fait 200 pages, mais il y a trois histoires dedans. Il y a le portrait d'une femme, la vie d'une petite ville hors saison avec tous ses personnages, et puis une interrogation sur la culpabilité qui est presque un roman policier. Vous aviez un truc que vous vouliez raconter en priorité et vous avez greffé le reste autour, ou vous aviez dès le départ envie de tout raconter ?
Mais ça explique un peu ma démarche, parce qu'en général, dans tous mes livres, j'essaye d'avoir un peu un mystère central, un énigme central, quelque chose qui a un tout petit peu du roman policier. Et j'utilise ça aussi comme un peu le moteur du livre pour avoir toujours une question qui plane sur le livre. Mais après, j'en profite pour essayer de faire plus, pour essayer notamment de mettre en scène un petit monde, comme je l'avais fait dans le roman précédent, Les Silences, et puis je l'ai fait aussi là, donc c'est toujours avec beaucoup de personnages, mais toujours vraiment un petit monde. Donc là, c'est effectivement les personnes qui habitent dans cette vallée. Cette vallée, elle a aussi beaucoup de choses à raconter, il y a aussi beaucoup de secrets, et ces secrets sont aussi liés à la vie de Leila. Donc oui, j'essaye toujours de mélanger plusieurs choses dans mes livres, qui sont aussi... j'essaie de dépasser les 300 pages en général.
Pourquoi ? Parce qu'après, ça, vous trouvez que c'est trop long, vous comme lecteur, ou non, vous, les livres que vous aimez font moins de 300 pages ?
Disons qu'en général, quand je lis des livres, même que j'apprécie, dans ma tête, je suis toujours en train de couper quand même des paragraphes ici-là.
Il n'y a pas que moi, donc ça me rassure.
Et je me dis que si j'arrive à raconter l'histoire en 220 pages, pourquoi le faire en 250 ? Il y a un tout petit peu de minimalisme. Après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie dans mes lectures, et donc j'essaye de le faire aussi dans ce que j'écris.
Alors, dans votre livre, il y en a presque même un quatrième, parce qu'il y a aussi, vous racontez l'histoire d'un livre qui s'appelle Pourri brûlé, que découvre Leila pendant son voyage. C'était quoi l'envie d'écrire un livre sur un livre aussi ?
Alors, c'est vrai qu'en littérature, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup quand il y a un livre dans le livre. Mais surtout, c'était parce que il y a quand même des côtés un peu de l'histoire suisse qui sont moins agréables à raconter. Donc, j'ai fait ça dans Les Silences en parlant des enfants placés. Et une espèce d'évolution un peu des enfants placés, c'est les internements administratifs. Donc, c'est des femmes qu'on estimait pas être capables de mener une vie normale.
Bourgeoise, on va dire.
Ouais, ou
classique.
Ouais. Et des personnes peut-être avec des problèmes d'alcool ou des choses. Et puis, du coup, on les internait. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez violent. Et il y a encore des traces de ça en Suisse. Et je trouvais que ces histoires-là, elles faisaient un peu écho avec la réalité que Leila vit dans son présent. Et donc, de la faire rencontrer un livre qui part de l'expérience d'une femme qui a vécu dans cette vallée il y a quelques années, ça faisait un peu, comment dire, ça rentrait en dialogue avec l'histoire de Leila et avec certaines thématiques du livre.
Je vous remercie parce que je n'osais pas vous poser cette question parce que j'avais peur que ce soit un cliché, Les Silences, la Suisse, Martin Suter, tout ça. Mm-hmm. Mais bon, si c'est vous qui le dites, moi ça me va très bien. Il y a vraiment quelque chose qu'on sent avec Des Silences en Suisse ? Un culte du silence ?
Non, mais c'est vrai que c'est plutôt le contraire. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles dont on n'a pas parlé pendant longtemps, mais qui sont remontées à la surface grâce aussi à du travail qui a été fait et avec des témoignages notamment pour les enfants placés et aussi pour ces femmes qui ont été victimes d'internement administratif. Donc c'est quelque chose où il y a des recherches qui ont été faites, donc c'est maintenant on en parle et je trouve que d'en parler dans des romans, c'est aussi une opportunité pour découvrir un peu ces choses-là et ne pas avoir peur aussi, ne pas faire semblant que tout est parfait dans notre pays.
Dans votre roman, donc je reviens, il y a un autre roman qui s'appelle Pourri caché. Il y a question aussi des rapports entre une mère et son fils, parce que c'est quelque chose qui se répète dans l'histoire, évidemment, à chaque fois presque. Mais est-ce que vous pensez, vous, que le roman peut avoir un rôle dans une vie ? Est-ce que le roman peut changer une vie ? Est-ce qu'un roman peut changer le monde ?
Alors, changer le monde, non. Et en tout cas, c'est pas... je pense que si quelqu'un écrit avec l'objectif de changer le monde, alors bah, c'est...
Bon courage.
Sacré objectif. Ouais. Moi, je pense que par contre, que les êtres humains ont toujours communiqué à travers les histoires. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Et à travers les histoires, on peut effectivement changer, peut-être pas la vie, mais des petites trajectoires. Moi, j'ai appris beaucoup de la littérature. Enfin, il y a énormément de choses que la littérature m'a appris.
Sur la vie, sur la manière de considérer la vie, sur les êtres, sur la manière de regarder un paysage. Enfin, je sais pas, je fais des hypothèses, c'est pour essayer de vous...
Mais en général, ce que j'aime bien, c'est qu'à travers une histoire, on lit une histoire pour profiter de l'histoire. Et puis après, s'il y a des thématiques qui sont là-dedans, moi, j'arrive mieux à les, comment dire, à les incorporer. Si on me présente la thématique telle qu'elle, j'ai l'impression qu'on me fait un cours, qu'on est en train de vouloir m'apprendre quelque chose. Et tandis que quand je lis un livre, je me sens comme si j'ai la possibilité d'apprendre des choses, mais je ne suis pas obligé, je peux juste suivre l'histoire si j'ai envie. Et pour ça, pour moi, la fiction, c'est un moyen excellent aussi de parler d'autres choses. Et donc, on a toujours une intrigue au centre, mais on peut aller au-delà.
C'est aussi peut-être un moyen de faire revenir à la surface la vérité. Comme vous dites, ouais, en surface, la faire revenir à la surface, en tout cas une vérité. Il y a un moment dans ce livre, Leïla dit « Je vis dans une maison faite de mensonges » et Zoé, qui est une avocate, lui répond « Il se peut que des maisons sans mensonges existent, mais je n'en ai pas encore trouvé. Mm-hmm. » Il y a cette... rapport-là, un livre, c'est forcément une question posée à la vérité ?
Non, un livre n'a jamais comme objectif de... Enfin, en tout cas, mes livres, de chercher une vérité, mais c'est vraiment...
Peut-être celle des personnages, quand même.
Celle des personnages, mais c'est vraiment de se focaliser sur une petite histoire. Pour moi, la littérature, c'est du micro, c'est pas du macro. C'est l'histoire d'un personnage, un endroit. Et puis après, s'il y a des messages qui sont un peu plus, comment dire, de nature générale, bah, ils peuvent être cachés dans un livre, mais c'est jamais ça le point de départ. Le point de départ, c'est raconter une histoire.
Raconter une histoire et créer des personnages. Là, il y en a un certain nombre. Il y a Leïla, il y a son mari, il y a son fils. En 220 pages, il y a beaucoup de monde, parce qu'en fait, il y a aussi les amis de son mari et puis un ami de son fils. Puis il y a aussi tout ce village et toute une communauté avec une jeune fille en thèse qui travaille dans une boulangerie, un vieux monsieur qui boit un peu trop, son fils, un ami du camping qui fait de drôles d'activités. Et il y a tout ce petit microcosme. Il y a un plaisir à raconter tous ces gens, les relations entre eux.
Oui, par contre, il faut vraiment rester focalisé sur l'histoire et sur son personnage principal pour moi. Donc oui, ces personnages, ils sont dans le livre, mais je pense qu'ils ont la bonne place et qu'ils ne prennent pas trop de place. Et tout le monde a une fonction dans l'histoire. Donc je ne rajoute jamais des personnages juste pour rajouter des personnages. Au contraire, ça m'est arrivé d'en couper.
D'en retirer ? Donc,
ouais, bien sûr. Ou bien de les mettre ensemble. Par exemple, deux personnages qui sont devenus... un personnage.
Là, par exemple, il y en a
dans ce livre-là. Là, je dirais que maintenant, je fais déjà un peu attention quand je planifie l'histoire et j'essaye de faire attention déjà à ce moment-là. Donc, ça m'arrive moins de devoir, comment dire, éliminer des personnages par la suite, ce qui est assez agréable parce que quand on a un personnage dans un livre, si on doit l'enlever, il faut changer pas mal de choses.
Et c'est douloureux ?
Non, pas au contraire.
Non,
alors, moi, j'aime bien couper. Alors, je peux vous dire, la version que j'avais envoyée à Finitude, oui. Elle faisait, c'était un cinquième de plus. Et puis après, en travaillant...
On voit bien, vous n'êtes pas monsieur coupé, plus
c'est
sous,
bien. C'est bien, parce qu'on sent que le livre il devient meilleur quand on coupe. Puis après, on se pose la question, est-ce que j'ai trop coupé ? Mais en général, c'est plus facile... c'est beaucoup mieux de couper une fois de plus qu'une fois de moins. Après, ce n'est pas une règle générale. Hein, mais pour moi, en tout cas, ça fait partie du processus.
Dans ce livre, vous écrivez à un moment « Le papier imprimé n'est qu'une illusion ». Par rapport aux gens qui écrivent en espérant peut-être atteindre une certaine durée au-delà de la mort, vous allez quand même continuer à écrire, même si c'est une illusion ?
Oui, ça fait partie...
Vous n'êtes pas encore complètement désabusé.
Non, mais il faut quand même accepter aussi un peu le jeu. C'est qu'il y a beaucoup de livres qui sortent. Donc un livre doit se faire de la place. Et même s'il arrive à se faire de la place, il n'y a pas de garantie qu'il reste dans les temps. C'est un peu comme ça pour des autres domaines artistiques aussi. Et donc c'est vrai que c'est une phrase qui me parle aussi. Mais je pense que la motivation, il faut bien comprendre, quand on écrit, il faut bien se poser la question, quelle est ma motivation, pourquoi je fais ça? Et ça, c'est des questions que je me suis posées pendant longtemps. Je pense que gentiment, je trouve mes réponses. Et la réponse n'est certainement pas de durer dans le temps. Ben, bien sûr, j'aimerais bien... je dis toujours, mon ambition quand je fais un livre, c'est qu'il marche assez bien pour que je puisse faire le prochain. Voilà, donc... C'est déjà pas mal.
C'est déjà bien, oui. J'ai lu sur votre site internet que vous aviez rédigé une thèse sur Henry Miller, qui est justement un auteur que j'ai l'impression qu'on ne lit plus beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots pourquoi aujourd'hui ça vaut encore le coup de lire Henry Miller ?
Bah, moi, Henry Miller, c'est ce que j'avais apprécié à l'époque. Donc, je l'ai lu quand j'étais un peu plus jeune. C'était vraiment de faire une œuvre un peu autobiographique, totale, de parler un peu de sa vie à 360 degrés. Et il y a plus beaucoup de personnes qui font ça. Je pense que... ça serait plus possible de faire ce qu'il a fait. Donc, dans ce sens-là, c'est une manière de se dévoiler qui est totale et qui est très intéressante. Après, ce n'est pas ce que je voudrais faire moi avec mes livres, mais ouais, j'avais beaucoup aimé ça.
Et alors, on va dire qu'il était... Je n'ai pas révisé avant. C'est un Américain qui a vécu dans la première partie du XXe siècle. Mm-hmm. Peut-être qu'il était mort dans les années 60-70. J'ai peur de dire une bêtise. Et qui a écrit donc Tropique du Cancer, Tropique du Capricorne, et une trilogie Nexus, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, mais ça va. Ouf. Et que j'ai jamais lu, donc c'est aussi pour moi que j'avais envie de savoir si vous me conseilleriez de recommencer par lequel, ou un jeune auditeur là qui nous écoute et qui dit tiens, qui c'est cet Henry Miller?
Bah, c'est difficile de conseiller. Je pense Tropique du Cancer, Tropique du Capricorne. Après voilà, chacun ses préférences.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie de ces auteurs qui vivaient, et encore une fois, j'ai rien lu, mais ça, je sais ça, c'est qu'il vivait aux États-Unis et qui est venu en Europe parce qu'il avait déjà du mal avec les États-Unis de l'époque.
Oui, alors lui, il est très, très critique envers les États-Unis. Alors, si on cherche de la critique des États-Unis, bon, des États-Unis du passé, chez Henry Miller, on en trouve. D'ailleurs, ma thèse, c'était surtout sur sa critique sociale. Et donc voilà.
Je suis très heureux qu'on ait parlé un peu de lui. On va revenir à vous, Luca Brunoni. Votre livre donc s'appelle En Surface chez Finitude. Il va être traduit en italien ?
Ah, ça, je sais pas. C'est une possibilité. En tout cas, s'il va être traduit, je pense que je vais le traduire moi.
Justement, vous aimeriez le faire ?
Oui, alors je pense que maintenant, une fois que la version en français existe, de le faire en italien, ça serait très, très simple.
Et vous aimeriez continuer à traduire des livres ? Enfin, commencer plutôt, parce que je sais pas, vous n'êtes pas traducteur ?
Non, alors si un jour j'avais l'opportunité de le faire, oui, mais alors ouais, je préférais le faire en italien. Parce que je pense de passer d'une langue, je sais pas, j'imagine un livre qui me plaît en anglais, j'aurais plus de facilité à le traduire en italien qu'en français. Ça serait moins de travail aussi pour moi.
Ça a été un travail particulier d'écrire celui-là ? Vous avez fait relire par des gens natifs français parce que
oui, bien sûr, non. Et puis pour avoir Finitude, ils ont aussi corrigé. Bah déjà mes suicismes, parce qu'il y a pas
c'est quoi un suicisme?
Bah, les suicismes, c'est des choses qu'on dit en Suisse. Typiquement un téléphone portable, nous on dit encore un natel. Alors en France, un natel, vous savez pas ce que c'est?
Ah non.
Donc, voilà, donc il y a des petites choses comme ça.
Mais on adore ça, nous, les suicismes.
Alors, oui, après tout d'un coup, vous avez un natel dans le livre, vous savez pas ce que c'est, et puis vous devez commencer à
surtout
sur
qu'elle
Google,
s'en sert beaucoup de son attel.
C'est pas, ouais, exactement, ouais. Et puis après, il y a des fois des expressions qui fonctionnent en italien, mais qui fonctionnent pas du tout en français. Mais c'est facile de les repérer, de les corriger. Donc c'est pas dramatique non plus. Je pense ma syntaxe et tout ça tient la route. Donc, mais il y a du boulot d'éditeur aussi derrière, oui.
Quand on arrive là, comme vous, au moment où le livre arrive sur les tables des libraires, on est dans quel état d'esprit? On le lâche complètement? On sait qu'il va vivre sa vie? Est-ce que vous êtes encore attaché au personnage? Est-ce que...
Alors, en général, il y a du temps qui a passé. Donc, par rapport à l'histoire, non, c'est plutôt le stress, le trac habituel du livre qui doit faire son petit parcours, son petit chemin. Et nous, on le suit à distance parce que...
Mais vous, en plus, vous n'êtes pas sur place, là.
Oui, et puis même, je suis chez moi et puis j'espère que les gens qui vont le lire vont en parler comme tout le monde.
Donc là, vous surveillez quoi? Aujourd'hui, vous surveillez les réseaux sociaux, votre nom?
Ouais, alors... Je ne surveille pas vraiment, mais j'espère, voilà, j'espère que... Puis de temps en temps, j'ai des retours, et puis... mais après, en général, il faut attendre, il faut avoir un peu de patience pour savoir si le livre, il marche ou pas.
Vous êtes quelqu'un de patient ?
Non, pas trop.
Alors, bon courage. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je vous rends au Salon du Livre. Oui, parce qu'on a enregistré l'émission un petit peu avant, donc vous y allez maintenant au Salon du Livre. Je redonne le nom de votre livre En Surface, Luca Brunoni, et c'est publié chez Fénitude. Nous, on va écouter un peu de musique et tout de suite après, on se retrouve avec Guillaume Collet depuis Saint-Étienne qui va nous parler du festival Nouveau Rêve. Merci beaucoup.
Merci.
C'était au fait, si, un extrait de la fraîchise de Radio Campus Paris. Guillaume Collet, vous êtes avec nous. Vous avez reçu cet hiver pour Les Mains Pleines paru chez Bourgois. On avait évoqué alors le Festival Nouveau Rêve qui vient d'avoir lieu à Saint-Étienne, un festival de court-métrage. Alors bonsoir Guillaume, je crois que vous êtes avec nous.
Oui,
oui,
bonsoir
Guillaume. D'abord, quelle est l'originalité, la singularité de ce festival par rapport à d'autres ?
Alors, c'est un festival de court-métrage. C'est un festival qui est assez jeune. On est en plein dans la quatrième édition. C'est un festival qui a une particularité d'être non compétitif, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de prix. C'est un festival aussi où aucun film n'est projeté seul. Donc, c'est-à-dire qu'on invite tous les réalisatrices et réalisateurs. S'ils ne peuvent pas être présents, on fait toujours en sorte qu'il y ait quelqu'un qui ait participé au tournage, qui vienne accompagner les films. Donc on appuie sur une sélection. Pour nous, on vise une sélection qui met en avant une singularité de points de vue différents et surtout l'occasion de rencontrer différents réalisatrices, réalisateurs.
C'est plutôt des jeunes quand même.
Oui, plutôt.
Il n'y a pas de critère d'âge.
Non, il n'y a aucun critère d'âge. Hein. Ça peut aller jusqu'à... De facto, les gens qui réalisent des courts-métrages sont plutôt jeunes, mais on a invité des réalisateurs autour de la cinquantaine. Ça nous arrive aussi. Il faut savoir que nous, on peut projeter aussi des films assez longs. Hein, 40 minutes, 45 minutes, c'est encore du court-métrage. C'est un format qu'on aime bien projeter aussi. Et on projette également du documentaire. On mélange les genres au sein de nos sélections, donc principalement de la fiction, mais aussi du documentaire. Ce qui est une forme qu'on connaît peu, le court-métrage et le documentaire.
Justement, pourquoi vous avez fait le choix de mélanger les genres ?
Nous,
c'est peut-être par envie, tout simplement.
Non, parce qu'on trouve que c'est intéressant, justement, puisque finalement, il peut y avoir un geste de réalisateur et un geste artistique au sein même, finalement, d'un documentaire. Donc pour nous, c'était assez important de les mêler.
Alors j'ai un peu regardé le programme en préparant cette émission. Il y a un documentaire qui a l'air incroyable sur une jeune femme qui a filmé sa grand-mère. J'espère qu'on
oui.
pourra... Allez-y.
C'est l'œil de la mule. C'est le film qui va passer ce soir en ouverture de la séance 2 à 20h30. C'est un film assez beau, en effet, et c'est un film fait avec peu d'argent. Ça aussi, on y tient. On mélange des films qui ont des productions plus confortables, c'est-à-dire avec différents financeurs publics, et des films qui se rapprochent de l'autoproduction, donc fait tout seul. Ça, c'est un film qui s'approche de l'autoproduction, et c'est la réalisatrice a filmé sa grand-mère qui lui fait le récit de sa vie, et de sa vie intime et sexuelle sur quasiment 70 ans. Donc en fait, on voit un peu les changements de société à travers ce récit-là, les notions de consentement, de violence sexuelle au sein d'un couple. C'est assez cru, mais également assez beau d'avoir réussi à capter cette intimité-là.
Alors on va pas tricher, hein, quand vous dites ce soir, c'est vendredi soir parce qu'on enregistre cet entretien, parce que voilà, mais nous on est lundi soir, là, et au moment où on est diffusé, on est lundi soir, et c'est le 17 avril, et donc ce soir à Paris, je tiens à être très, très lundi 14 avril, je me suis trompé de jour en plus, ça ne va pas m'aider, ce soir, lundi 14 avril à Paris, au 3 Luxembourg, on peut retrouver... une sélection au cinéma, je l'ai dit, au 3 Luxembourg, pardon, c'est parce que je cherchais l'adresse et je ne la trouve pas. C'est 67 rue Monsieur le Prince à partir de 20h30. On peut vous retrouver, vous, avec Jeanne, mais je ne vais pas y arriver, avec le Lyra Ciné Club, qui est un ciné club féministe créé par Jeanne d'Antoine, qui a choisi plusieurs films. Est-ce que vous savez ce qu'on peut venir voir ce soir à Paris ?
C'est-à-dire dans 3 jours. Il y a une reprise de.
C'est un peu compliqué.
Mais il y a une reprise de trois de nos films.
On va voir sur le site et on trouvera. C'est peut-être parce que vous avez.
Oui, voilà.
Votre festival, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. je comprends
alors,
bien.
Non, je peux vous les donner.
Ah bah alors allez-y.
Il y a Rita et Adam, qui est une comédie assez qui sort de l'école. C'est la réalisatrice sort de l'école La Cinéfabrique à Lyon.
D'accord.
Âme qui vive, qui est un drame assez émouvant sur le deuil et sur l'amitié.
D'accord. Toujours ce soir à 20h30. Hein. Ce soir, c'est lundi 14 avril, je le redis.
Et Fixette, qui est plutôt là, ouvertement une comédie.
Et donc, on redit, c'est au 3 Luxembourg, le 14 avril à 20h30. Pendant ce festival, vous organisez aussi des tables rondes. Il y en a deux, j'ai cru voir, au cinéma Le Méliès. Il y en a une particulièrement sur le métier de monteur. J'ai cru comprendre que vous aimiez mettre en avant les métiers techniques du cinéma, ceux qui ont des Césars et qui, en général, ils sont obligés de le prendre vite et de partir. Pourquoi le métier de monteur ? Cette année
Pourquoi le métier de monteur ? Parce que c'était un métier qu'on n'avait pas encore invité.
C'est une bonne raison.
C'est déjà une
je m'aperçois de la bêtise de ma question.
Non, pas du tout. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans des courts-métrages de documentaires, parfois dans des endroits où on n'y attend pas, on peut percevoir un travail de montage. Et en fait, c'est vraiment la dernière écriture quelque part du film, après l'écriture du scénario, après l'épreuve du montage, l'épreuve du tournage, après l'épreuve de la direction d'acteur. Le monteur, c'est à la fois un savoir assez technique, utiliser les logiciels, mais ça demande aussi une grande sensibilité. Puis c'est un moment, les monteurs sont souvent enfermés avec les réalisateurs et c'est un rôle très particulier puisqu'ils ils sont là comme un peu un regard neuf pour terminer le film Et parfois, il se retrouve aussi dans des conflits très pragmatiques entre un prod qui a un avis, la réalisatrice qui a un autre avis et le monteur qui est au milieu. Donc finalement, on va parler à la fois de choses très pragmatiques, puis aussi de sensibilité, un peu de grammaire et de rythme de l'image.
Au vu des précédentes éditions de ce festival, vous avez le public est intéressé par ces débats?
Oui, parce que on sait déjà, ces personnes sont peu invitées dans les festivals. Nous, on les invite et on les fait parler sans réalisateur. C'est-à-dire qu'on met lors d'une table ronde sur les monteurs, on va vraiment parler que de montage. C'est à la fois l'occasion de découvrir un métier et aussi d'avoir d'autres approches, d'approches artistiques et sensibles du cinéma sans passer par le rôle de réalisation. Ah, en fait, et je précise qu'on invite tous les réalisateurs aussi et qu'ils parlent à la fin de chacun de leurs films.
Vous l'avez dit tout à l'heure, pour venir à ce festival Nouveau Rêve, il faut forcément qu'il y ait une personne de l'équipe qui vienne. Pourquoi Nouveau Rêve?
Nouveau Rêve.
Parce que la relève s'était déjà prise, non? C'est ça?
C'est ça, peut-être. mais je pense que chaque film, chaque nouveau film qu'on voit, c'est un peu un nouveau rêve qui démarre. Et nous, je pense qu'on est assez avide de nouveaux rêves. Voilà.
Merci beaucoup, Guillaume Collet. Je vais vous rendre à votre équipe. Ce soir, en plus, vous avez une soirée dans la galerie d'art Cesson et Bentière, dans laquelle j'ai eu la chance d'aller déjà, qui est un lieu assez incroyable de Saint-Étienne, une ville qui mérite d'être découverte à mon avis. Ça se passe bien là-bas, tout va bien, il fait beau, on va quand même finir quand même par le bulletin météo.
Oui, il fait très beau, écoutez.
Bon, et c'est bon pour un festival ou pas ça?
Ah, il y a deux écoles. Moi, je pense que quand il fait beau, c'est toujours mieux. Certains vont dire que ça n'invite pas forcément à aller au cinéma, mais on a une super buvette, on a un super lieu d'accueil qui est ouvert sur la rue. Donc voilà, ça n'empêche pas de bien discuter et rencontrer les gens après les projections.
Merci beaucoup, Guillaume Collet. Je redonne le nom du festival. C'est Les Nouveaux Rêves. Enfin, je ne vais pas redonner les dates puisque c'est passé. Il faut que je me fasse moi aussi. En fait, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Je suis à la fois aujourd'hui et dans le passé. C'est un peu compliqué pour moi. Donc, c'est fini, en fait, le festival Nouveaux Rêves. Mais on pourra venir l'année prochaine pour la 5e édition. On a reçu tout à l'heure Lucas Brunoni pour son premier roman En Surface aux éditions Finitude. Et je redis que ce soir, à 20h30, au cinéma, Les Trois Luxembourg, on peut retrouver une sélection issue du festival Nouveau Rêve. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Merci.
Ah, pardon, on a coupé la parole à Guillaume Collet, merci à lui. C'était La Relève, présentée, préparée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo. Cette émission et toutes les précédentes sont sur le site de Radio Campus Paris, où on se retrouve la semaine prochaine avec une rediffusion. Allez, bonne soirée, à bientôt.